Combe-Laval et le paysage économique et industriel. Panoramique à pied d'une vie parfois insoupçonnée, au cœur d'une vaste impasse naturelle avec l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui.
La route est actionnée par l'eau et elle actionnait quoi ?
Une balade commentée dans le cadre de l'événement Fenêtre ouverte sur Combe-Laval, réalisé le 2 juillet 2013.
Et donc le Cholet, avant 1850, il passe là.
Départ depuis le lieu-dit Les Forges à Saint-Laurent-en-Royans jusqu'à Font-Laval, confins de cette immense reculée géologique.
Là, on a la preuve par les archives.
Après un premier arrêt au lieu-dit Les Forges, point de départ de cette balade commentée, nous rejoignons une petite route communale et ensuite un pont pour le moins singulier, fruit de modernité des temps passés.
C'est intéressant Les Forges, là, hein. C'est un lieu qui est quand même... C'est un lieu mythique. Hein.
Oui, des sites comme ça qui ont été...
Je le répéterai à midi, mais Daniel Blanc et moi-même, on a rédigé un article sur l'histoire des Forges, détaillé, qui est paru au mois de juin, ce mois-ci, dans la revue Dromoise. Voilà. C'est un gros travail qu'on a fait ensemble, mais c'est elle qui a fourni tous les résultats de recherche, parce qu'il y a longtemps déjà qu'elle avait travaillé sur ces forges. J'étais bien placé pour cela, puisqu'il y a l'histoire de sa famille et puis il y a l'apport qu'ils ont fait tous les deux aussi.
Si, perplexe, les Andes. Je ne les connais pas.
Oui. Normalement, il doit passer sous le...
Moi, quand je suis à Londres...
L'autre fois, il est allé les embêter de très près.
Vous avez déjà fait ce type de découverte sur Combe-Laval ou...
Alors, Combe-Laval, ça a fait l'objet de recherches de la part de Royan d'hier et d'aujourd'hui. En 2011, on a fait un travail sur 2 années de recherches complètes qui ont débouché sur une exposition pour les Journées Patrimoine. Voilà. Hein. Et depuis, donc, on a acquis une certaine, disons, expérience. Donc, on participe là aux fenêtres ouvertes sur Combe-Laval et on a proposé de faire une balade sur quelque chose que nous connaissons bien, puisque nous avons rédigé également une brochure qui la première sur Combe-Laval, qui livre tout ce que le résultat de nos recherches, tant en géologie, géographie, histoire, religion, faune, flore, et bien sûr, tout le domaine économique et artisanal qu'il y a eu. Parce que contrairement à ce qu'on croit, une reculée, ce n'est pas forcément un désert. À partir du moment où il y a de l'eau, et il y a de l'eau en abondance dans la Combe, qui fait que ça a pu faire vivre les familles et développer beaucoup de, disons, d'activités.
C'est vrai qu'on ne soupçonne pas une industrie dans ces secteurs. Hein,
non, vous allez voir, tout à l'heure on va découvrir le moulinage. Hein, et au fond de la Combe, il y avait une tournerie qui est maintenant remplacée par un monastère. Mais tout le long de la Combe, vous aviez des moulins hydrauliques, bien sûr. Hein, également des scies hydrauliques. C'était extrêmement vivant. Extrêmement vivant.
Vous connaissez aussi bien les moindres recoins, puisque vous avez fait une représentation modélisée de Combe-Laval.
Ah ben on a fait bien sûr la maquette, c'est des gens de chez nous, hein, donc Pierre Blanc qui en était à la tête.
Vous avez face à vous un joli pont métallique, mais qui n'a rien de routier. Ce petit pont a été construit en 1892-1900 pour le tram. C'est un petit chemin de fer qui partait de Bourg-de-Péage, qui traversait tous les villages, les Cancières, Saint-Nazaire, Saint-Thomas, La Motte, Saint-Jean-Royan, Saint-Laurent, et qui terminait à Sainte-Eulalie-en-Royan. Donc ce petit tram, pour le faire circuler, eh bien, on a utilisé au maximum les routes existantes, parce que par exemple à Saint-Nazaire-en-Royan, lorsque vous arrivez à Saint-Nazaire, vous avez le carrefour dans Saint-Nazaire. Eh bien, ici, c'était aussi le passage du tram. Le chauffeur donnait un coup de sifflet pour le passage du tram. Les gens s'arrêtaient ou le tram s'arrêtait, bref. Mais le tram passait sur la route. Et puis, à d'autres endroits, eh bien, il a fallu construire soit des ponts, soit des viaducs. Pour passer de la commune de Saint-Jean-en-Royan sur la commune de Saint-Laurent-en-Royan, il a fallu construire le viaduc que vous avez devant vous. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de ce petit tram, parce que l'on appelait Taco aussi. C'est un petit tram qui a roulé dans le Royan pendant une trentaine d'années, de 1900 à de 1901 à 1932-33, et qui a été très original. Par exemple, lorsqu'il arrivait ici, il passait sur le viaduc, et puis pour aller à Saint-Laurent, vous voyez, il y a une côte qui monte. Eh bien là, les voyageurs descendaient, et le petit tram montait, et ensuite les voyageurs reprenaient le petit tram. Et dans ce petit tram, il y avait deux classes. Il y avait première classe, avec les fauteuils en cuir, les appuie-têtes en cuir, et les fauteuils dans le sens de la marche. Pour la deuxième classe, les banquettes étaient en bois et elles étaient parallèles l'une à l'autre, mais pas dans le sens de la marche, parallèles au wagon. Voilà pour le petit tram. Alors, il a rendu énormément de services, parce que d'abord pour transporter du bois vers la ville, pour transporter différents denrées, et puis aussi pour les personnes qui allaient au marché à Romans. Le marché à Romans, alors les dames partaient avec les poules, les canards, la volaille, leurs légumes à vendre, tout dans le petit tram. Tout, les tomes aussi, bien sûr, les tomes du Royan, tout dans le petit tram. Et puis, bon, ben, ce petit tram, il a circulé tant qu'il a pu, mais bien sûr, il n'allait pas dans tous les villages. Et puis, les années passant, eh bien, les habitants ont demandé à ce qu'il y ait une voie de communication, entre Romans et toujours Sainte-Eulalie, mais de façon à ce que tous les villages soient desservis. Donc, il y a eu la création des cars. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le petit tram, petit à petit, n'a plus existé. Mais les architectures ont toujours existé. Donc là, c'est le viaduc le plus important construit pour l'occasion du tram. Lorsque vous êtes à Saint-Nazaire en Royan, toujours quand vous venez sur Saint-Jean-Royan, vous êtes sur la place au rond-point et vous venez sur Saint-Jean. Vous passez sur un petit pont. Il a été aussi construit à cette occasion. Il y en a un autre à Saint-Jean que l'on appelle le pont des Bohémiens, qui a été construit aussi spécialement pour le tram. Et lorsque le tram a disparu, eh bien, ces ponts ont été utilisés comme route. Donc maintenant, ce pont est utilisé, et vous l'avez peut-être pris pour venir. Donc on peut rejoindre Saint-Jean-en-Royan par ce petit pont. Alors, en ce qui concerne la construction de ce pont, il a la travée métallique que vous pouvez regarder à 55 mètres de portée. Il est à 34 mètres de hauteur, au-dessus du ruisseau du Cholet. Vous pouvez voir les trois arches en maçonnerie qui ont 8 mètres d'ouverture. Voilà ce que l'on peut dire sur ce petit pont du tram.
ce que mon papa m'a souvent raconté, mon papa qui habitait au quartier des Lambert à Sainte-Eulalie, hein, c'est le quartier le plus haut de Sainte-Eulalie, quand le tram repartait des Foulons de pont, il remontait sur Sainte-Eulalie par une, vous connaissez la voie du tram, hein, qui est une pente assez raide, et suivant ce qu'il avait à tirer, quelquefois, il avait beaucoup de peine, et tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou, ce que les gens du coin avaient traduit en patois par « med-pan », ce qui peut se traduire en français par « moi j'ai de la peine ». Et de temps en temps, la charge était tellement lourde que les roues se mettaient à patiner sur les rails et que le med-pan s'emballait. Alors ça faisait med-pan. Voilà ce que mon papa m'a souvent raconté, puisqu'il l'a connu.
Super, c'est bien.
Petite histoire.
Voilà.
Le trajet durait 2h30 de pour de péage jusqu'à Sainte-Eulalie. 2h30, c'est quand même beaucoup. Hein.
Arnaud, surtout. Et surtout aussi le chauffeur, qu'il fallait réveiller, lui, en vain.
Oui, il y avait bien du pire.
Chaque fois que je passe,
il avait gaspillé les rails, il n'y avait pas de problème.
L'hiver, il y avait le grand luxe. En première, il y avait des bouillottes pour les pieds, je suppose, pour les pieds. Mais quelquefois, le chauffeur oubliait de mettre l'eau chaude, quoi, de changer. Le...
Oui, bien sûr.
Il avait trop de travail.
Bien sûr.
Toute petite séquence d'un film qui a été tourné avec Nathalie Baye et Pierre Arditi qui s'appelle De guerre lasse. Voilà. Mais toute petite séquence. Hein. Là, oui, là, oui. Là, sous le dos. Oui.
Je pense que là, ça serait bien de le localiser.
Un mot sur le crochet.
Oui, d'accord.
Là, c'est bon. Parce que là, on
reculez-vous, reculez-vous, on se recule un peu. Voilà, et là, là, on peut bien.
On voit bien, là.
Hein? Hein? On parle de Frochet ici.
Oui, ah, non,
Frochet, je... la grotte, hein, c'est
la grotte. Alors, on va parler de la grotte de Frochet, qui se situe en dessus de cette falaise un peu de tuf, là, un peu pourrie là. Hein. Alors, donc, en dessus de cette falaise de tuf, il y a un terre-plein là. Et au fond du terre-plein, il y a une grotte, la grotte de Frochet, qui est située au pied d'une falaise surplombante. Ce qui fait que ça crée un abri sous roche. Je me tourne quand même, hein, m'entendez mieux. Voilà. Et cet abri sous roche est assez important puisqu'il a une trentaine de mètres de long sur 10 ou 15 de large. Hein. Et on a la certitude maintenant que cet abri sous roche a été utilisé par des hommes quoi, depuis 7000 ans. Hein. Alors au cours des fouilles de 1980-81, on a trouvé là, en cherchant, hein, en fouillant, une fouille sérieuse, des débris de silex taillés, des morceaux de céramique, alors céramique gallo-romaine ou plus récente médiévale, des résidus de fonderie, donc c'est déjà un peu l'industrie, hein, l'industrie du fer, et quatre gros galets qu'on pense quoi, avoir servi d'enclume, ou pour la confection d'anneaux. Voilà, donc ça aussi, c'est un peu de l'industrie du fer, du métal.
On a quoi,
voilà.
Denis ? La confection
d'anneaux. D'anneaux.
Ah, d'anneaux.
D'anneaux, voilà. Alors, il n'y a pas longtemps qu'on le sait, hein. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein. Ça a été étudié par des gens qui... Voilà. Alors, ce lieu-là a servi de halte de chasse, hein. À l'époque, alors on est non seulement du Mésolithique, c'est-à-dire les derniers peuples chasseurs et cueilleurs,
Et puis après, au début du néolithique, alors là, c'était les peuples agriculteurs, éleveurs, qui devaient sûrement se servir de ce lieu comme bergerie. Ça faisait un abri, et avec sur le terre-plein, devant, autrefois, c'était pas tout boisé, comme ça, il y avait quand même de l'herbe. Voilà. Hein, ça veut dire. Bon, puis, c'était aussi un passage, hein, pour monter à la en montagne, à les charassons, ils devaient mener leurs troupeaux là-haut, et ils s'arrêtaient sûrement là, il y avait de l'eau, il y avait un abri, voilà. Ça n'a sûrement jamais été un habitat permanent, hein. C'était juste une halte, mais bon, il restait peut-être quelques temps. Voilà. Alors donc, occupation, à l'époque aussi des métaux, puisqu'on a trouvé ces résidus là de fonderie, les périodes gallo-romaines, avec ces céramiques, bon, médiévales, et puis plus récentes, quoi, puisque sur une carte postale ancienne, on voit un amas de fourrage, là, de foin qui a été posé à l'entrée de la grotte. Donc c'était 1900, quoi, hein, donc ça servait toujours, voilà. Donc c'était pas donc un habitat, mais bien un refuge temporaire sur un chemin qui menait de la plaine, ici, à la montagne, pour les éleveurs ou les chasseurs. Voilà. Alors, pour tout savoir là-dessus, il y a une exposition qui est en place à Saint-Jean, où on vous montre quelques-uns, les plus beaux, hein, les silex taillés, des morceaux de poterie, certains étaient regroupés, recollés ensemble. Et puis il y a quatre grands panneaux explicatifs qui vous disent tout. Hein.
C'est à l'office du tourisme.
À l'office de tourisme.
Bon, okay. Alors, c'est pas de l'économique ni industrielle, mais ça y ressemble. Hein.
Un petit peu.
Parce qu'il y avait l'industrie de fer, mais enfin, c'était pas pour ça qu'on. Voilà, bon. C'est-à-dire, on peut pas passer dans la grotte de Frochet sans en parler un peu, quoi.
Au fond, il y a.
Il y a un sentier après la grotte pour monter à la montagne.
Il y a un sentier, oui, qui continue, qui ressort là-haut, tournant Jourdan, quoi.
Voilà, d'accord.
Oui, il est sûrement vieux, ce sentier, mais il est un peu escarpé. Hein.
Et il est
radeux. Il est radeux. Mais il est sûrement très vieux, hein.
Enfin. Ça passe entre les deux rochers.
Oui, voilà. Ça passe entre les deux rochers. Ou je crois que ça vient plutôt sur la droite.
Ah oui, d'accord.
On s'arrête au premier rocher là qu'on voit. Là, c'est une. Oui. Et puis après, bon, on va vers la grotte et on revient un peu. Et on passe pas dans
plusieurs fois là.
Ah bon.
On revient plutôt par là.
Ah oui.
Rocher. On tombe juste en dessous de la maison.
La maison du tournant.
Voilà.
C'est la maison Jourdan.
Oui. Néolithique, vous pourrez me rappeler quelle époque c'est le néolithique déjà ?
Moins 5000 ans.
Ah ouais.
Moins 5500 ans, néolithique.
On y va, s'il vous plaît.
Début.
Gérard est un puits de science, alors. On va. On va pas le combler, mais bon.
Non, mais ce ne sont pas des fraises.
Ah, c'est pas des fraises,
ça ? Non, c'est pas des fraises.
Ah bon ? Qu'est-ce que ça
peut être ? Je ne sais plus ce que c'est. C'est un.
C'est pas des fraises
mais
des bois ?
Aussi... C'est pas des fraises des bois, non ? Regardez. Ça n'a rien à voir.
Ah, oui. D'accord.
C'est pas des fraises des bois.
Ah, ça. Non, c'est...
C'est trompeur.
Ah ouais, c'est trompeur.
On dirait des belles fraises Tagada.
Et la différence, en fait, qu'est-ce que c'est, comme vous savez ? Qu'est-ce que c'est ?
Je ne sais pas comment...
C'est la famille des fraises, quand même ?
Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, elles ne sont pas consommables.
Ah oui ? Ah oui, vous ne pouvez pas les manger ?
Non, non.
Donc, une n'importe comment, elles sont pas... C'est pas bon.
Cette balade découverte et commentée autour du patrimoine économique et industriel du cirque de Combes-Laval. Un itinéraire organisé par l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui dans le cadre de Fenêtres ouvertes sur Combes-Laval 2013.